Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, direction le Proche-Orient pour notre débat de ce lundi. En ce 5 juin 2017, Israéliens et Palestiniens commémorent le 50e anniversaire de la guerre des Six Jours. Conflit armé éclair qui a durablement ébranlé le Moyen-Orient avec une prise de contrôle par le jeune État hébreu du Sinaï, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de la bande de Gaza et du plateau du Golan. Un demi-siècle plus tard, ces frontières de 1967 constituent toujours une référence, la référence essentielle dans la recherche d'une solution de paix sur la base de deux États pour deux peuples. D'après le projet porté par les Nations Unies, l'autorité palestinienne, une bonne partie de la communauté internationale, l'État palestinien s'établirait sur la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Officiellement, et si les discussions sont au point mort, on croit donc encore à la négociation. Mais la dernière résolution de l'ONU en la matière précise que des modifications négociées par les parties hors de ces frontières pourraient être reconnues. Une forme de pragmatisme. Plus de 600 000 colons vivent aujourd'hui en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. L'idée d'un retrait total semble donc bien compliquée. Faut-il abandonner la solution à deux États? Est-ce la fin de la perspective d'un État palestinien soutenu pourtant par 138 pays? Eh bien, c'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Dominique Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, spécialiste du Proche-Orient. Vous co-dirigez avec Bertrand Badi l'État du Monde à la découverte. En face de vous, Ofer Bronstein, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Forum international pour la paix au Proche-Orient. Vous êtes un militant franco-israélien avec un passeport palestinien. Alors, 23 ans après les accords d'Oslo, hein, qui fixaient normalement les étapes vers un État palestinien. Ofer Bronstein, est-ce que la solution à deux États doit continuer à être l'objectif ?
Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a plus rien à inventer par rapport à une solution permanente au conflit israélo-palestinien. On peut changer de modalité, de processus, de dynamique, mais la seule solution viable pour les deux peuples, c'est la reconnaissance mutuelle, c'est le respect mutuel des aspirations des uns et des autres. C'est donc la solution des deux États, de deux États qui vivraient en bon voisinage. Et pas seulement des deux États, mais aujourd'hui, il faut adopter, peut-être la mettre à l'ordre du jour, avec certaines modifications, c'est l'initiative de paix arabe, qui préconise pas seulement la création d'un État palestinien que les Palestiniens méritent, mais qui préconise aussi la reconnaissance par Israël de tous les pays arabes et musulmans. Parce que c'est uniquement par la reconnaissance mutuelle qu'Israël garantira sa sécurité et que les Palestiniens pourraient finalement vivre dans la dignité,
mais vous
dans
y
la liberté.
Croyez toujours, après cet échec international de la diplomatie, malgré les multiples tentatives, la France a essayé d'esquisser un retour aux négociations il y a encore quelques mois, les États-Unis de Barack Obama ont échoué.
Je pense pas. Moi, j'ai tendance à être un optimiste et à regarder le verre à moitié plein. Alors, c'est vrai qu'il y a une rupture, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des crises, c'est vrai que la situation est insupportable, à la fois pour les Palestiniens qui vivent depuis 50 ans sous une occupation militaire, mais aussi à la fois pour la société israélienne qui est tombée dans le piège de l'occupation. Devenir un occupant, c'est une cicatrice profonde à l'intérieur de la société israélienne. Mais le côté positif, si on regarde depuis les accords d'Oslo, si on regarde ces 50 dernières années, c'est que à la suite de la guerre des Six Jours, à la suite des accords d'Oslo, il y a des accords de paix avec l'Égypte, il y a des accords de paix entre la Jordanie et Israël, il y a une autorité palestinienne qui est installée aujourd'hui et qui contrôle ce qu'elle peut contrôler. C'est un moindre mal, c'est pas ce que l'on veut, mais donc il y a aussi une dynamique positive.
Donc pour vous, il y a des motifs d'espoir.
Bien sûr, bien entendu, on n'a pas d'autre choix. Je laisserai mon ami Dominique intervenir, mais je voudrais parler après de la diplomatie française et européenne.
Alors, on va en dire un mot. Dominique Vidal, votre réponse à cette première question, est-ce que la solution à deux États est encore envisageable ?
Le problème n'est pas est-ce qu'elle nous plaît ou elle nous plaît pas. Le problème, c'est que c'est la seule perspective ouverte par la communauté internationale depuis 1947, c'est-à-dire depuis l'idée du partage de la Palestine. Après la guerre des Six Jours, ça a été repris. Au fond, la demande de retrait d'Israël des territoires, c'est bien pour créer un État palestinien. Et on a ensuite une série de résolutions de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité, jusqu'à la dernière, celle du 23 décembre 2016, qu'il ne faut pas oublier, qui passe grâce à l'abstention américaine et qui réaffirme là aussi cette perspective. Le problème, c'est que les obstacles s'accumulent. Et il y a un obstacle nouveau qu'on n'avait pas connu depuis 1967, c'est le fait que une partie non négligeable du gouvernement israélien, des forces politiques qui dirigent Israël, se sont prononcées non plus seulement pour la colonisation, vous l'avez dit, 600
plus que 50
000 au total sur Cisjordanie et Jérusalem-Est. Mais vous avez une mise en œuvre de mesures d'annexion. C'est-à-dire, on a pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël une résolution votée à la Knesset le 6 février de cette année et qui ouvre la voie, je dirais, à une annexion de tout ou partie de la Cisjordanie. Et quand on regarde les porteurs de cette loi et les porteurs de cette idée, on s'aperçoit que ce sont des gens d'extrême droite tout à fait décidés à mener à bout ce projet. Je pense en particulier à Naftali Bennett, le chef du parti Foyer Juif, qui a déclaré à l'époque « Nous devons, je le cite, donner nos vies pour l'annexion de la Cisjordanie ». On ne peut pas faire plus clair. Alors si cette loi devait être validée par la Cour suprême, et si, on va en reparler, les États-Unis laissaient faire, on irait effectivement vers une perspective d'un seul État, sauf que dans cet État-là, il y aurait des Juifs qui auraient tous les droits, y compris les droits politiques, bien sûr, de citoyens, et des Palestiniens qui n'en auraient aucun. C'est-à-dire, au fond,
un
c'est
État
l'apartheid...
Un État et deux citoyennetés à deux vitesses.
C'est l'apartheid à l'israélienne, si
Alors,
vous voulez.
Alors, sur cet obstacle considérable que vient de nous décrire Dominique Vidal, qu'est-ce que vous dites, Ofer Bornstein ?
Je remets encore une fois les pendules à l'heure. Je suis très préoccupé par le fait que l'extrême droite israélienne fait partie de la coalition gouvernementale actuelle, mais je suis encore une fois quand même optimiste à écouter la société israélienne. Les derniers sondages effectués en Israël disent que la majorité des Israéliens, tout parti confondu, peut-être pas d'extrême droite, mais la majorité des Israéliens sont toujours pour la solution aux deux États.
Mais les trois quarts n'y croient pas dans un avenir proche. Donc il y a quand même une désespérance en tout cas.
L'histoire nous réserve des surprises. À la veille en 1992, quand c'était la droite qui était au pouvoir, Yitzhak Shamir qui tenait le pouvoir, personne ne croyait qu'un an après l'OLP serait plus non grata et on pourrait la fréquenter, qu'il y aurait une poignée de main historique entre le chef d'état-major de la guerre des six jours de l'époque, M. Yitzhak Rabin, et le chef emblématique de l'autorité des Palestiniens, M. Yasser Arafat. Donc, moi je suis optimiste, je pense que la société israélienne comprend très bien, mais elle comprend autre chose, la société israélienne, que ceux qui préconisent l'annexion, comme l'a très bien dit Dominique, vont à l'encontre des intérêts des Israéliens et des Juifs. Aller vers l'annexion, aller vers une situation de presque apartheid, c'est aller à l'encontre de l'idée de la création même de l'État d'Israël, de l'idée de la création d'un foyer national juif qui sera démocratique.
Mais politiquement, c'est pas la force dominante.
Ils sont une minorité. Ils ne représentent même pas 10% du Parlement israélien.
Donc vous dites qu'il y a encore un camp de
mais
la paix.
Malheureusement, une minorité bruyante, virulente, qui tient en otage la majorité des Israéliens.
Dominique
Vidal.
Vous avez
organisé, c'est vous, pas nous, un débat entre optimistes. Moi aussi, je suis a priori plutôt optimiste.
On essaie aussi de porter une voix plus
optimiste. Mais je voudrais quand même qu'on mesure l'évolution négative, et je crois que Ofer arrondit un peu les angles, l'évolution négative de l'opinion israélienne. Je veux dire, la radicalisation du gouvernement, ça se fait pas hors sol. C'est aussi parce que dans l'opinion israélienne, il y a eu toute une série de tendances négatives. Alors là où je rejoins Ofer, c'est que je ne crois pas qu'aujourd'hui la majorité des Israéliens soit pour deux États. Je ne crois pas qu'ils soient pour le retrait de leur armée, de leurs colons de Cisjordanie. Certainement pas, encore moins.
Mais alors ils sont pour quoi ? Pour la paix ?
Sont pas pour un État binational. C'est-à-dire l'idée d'un État binational, ça fait peur. On peut dire des tas de choses positives sur l'idée d'État binational. C'est un bel idéal, être ensemble, plutôt que de faire de la division ethnique. C'est une idée qui a été enracinée chez les Palestiniens jusqu'aux années 70, mais aussi du côté juif dans les années 30-40. Il y avait tout un courant de l'opinion qui était favorable à une fédération judéo-arabe. Donc, si vous voulez, il y a bien des choses à dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire là-dessus est du domaine du rêve, parce que ni les Israéliens ni les Palestiniens ne sont prêts à vivre ensemble. Alors, on ne va pas créer un État commun pour des populations qui ne veulent pas vivre leur vie en commun.
Alors, je voudrais juste qu'on s'arrête sur cette expression, le camp de la paix, sur cette société civile israélienne. Il y a eu le 28 mai une manifestation à Tel Aviv. Alors, difficile d'avoir des chiffres fiables. On a dit 10 000, parfois on disait un petit peu plus. Alors, c'est quoi? C'est une démonstration de force ou au contraire, c'est finalement assez peu de personnes? Dominique Vidal, votre impression sur cette manifestation?
C'est une relance. Indiscutablement. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une manifestation aussi importante. Et là aussi, ça n'est pas hors sol. Il y a toute une série d'ONG israéliennes qui font un travail formidable, B'Tselem, Breaking the Silence, Briser le Silence, qui poussent l'opinion israélienne à mesurer la gravité de ce que ce gouvernement fait et veut faire. Mais en même temps, on doit bien constater qu'on n'est plus devant les foules de centaines de milliers de personnes qui se mobilisaient du temps d'Oslo, du temps de Rabin. On est quand même, et même Ofer qui est optimiste, je suis sûr qu'il s'inquiète aussi, de voir combien le mouvement de la paix est devenu un mouvement faible. Alors cette manifestation, c'était une reprise. Donc saluons la reprise, mais il faut voir jusqu'où ça ira.
Enfin, pour une fois, moi je serais beaucoup plus critique que Dominique vis-à-vis de la société israélienne et vis-à-vis de ce qu'on appelle le camp de la paix. Moi je pense que la manifestation de fin mai, encore une fois, elle a le mérite d'exister. C'est très bien que quelques milliers d'amis se sont rencontrés sur la place, une belle place de Tel Aviv pour parler de la paix. Mais je pense que le camp de la paix n'est plus représenté par ces gens-là. C'est pas le camp de la paix qui a disparu, c'est les représentants qui se disent représentants de ce camp-là qui ont été laminés, qui doivent être se réinventer, qui ont perdu.
Et il y a aujourd'hui des nouvelles figures qui pourraient l'incarner.
Bien sûr, vous savez, le 28 mai, moi j'étais en Israël et je devais faire un choix entre aller à la manifestation ou aller dans le quartier le plus pauvre de Tel Aviv qui s'appelle Shchonat HaTikva pour fêter la victoire de la Coupe d'Israël en football. J'ai décidé de passer quelques minutes à la manifestation avec mes amis à Kikar Rabin. Et ensuite, je suis allé dans ce quartier le plus pauvre de Tel Aviv pour fêter avec les citoyens de cette ville leur victoire au football qui n'avait pas eu lieu depuis 40 ans. Et je vais vous dire pourquoi. Le camp de la paix ou ceux qui prétendent le représenter ont perdu contact avec une grande partie de la population israélienne. Ne parle pas des problèmes qui les préoccupent. Il n'y a pas que la colonisation, il n'y a pas que l'occupation, il n'y a pas que la paix qui préoccupe les Israéliens. Il y a le logement qui est trop cher, il y a un chômage, il y a un problème dans le système d'éducation, il y a un problème de santé. Bien entendu que ces problèmes existent encore 10 fois plus chez les Palestiniens.
Mais ce sont aussi des choses qu'il faut entendre du côté israélien.
Qui prétend mener le camp de la paix ne sait pas s'adresser à ces préoccupations-là. Donc elle doit se réinventer. Mais moi je suis optimiste parce que même s'il ne représente pas le camp de la paix, le camp de la paix se trouve dans la société israélienne. Ça me continue à me rendre très, très optimiste. Mais je voudrais qu'on dise quand même un mot sur la diplomatie française et européenne.
Dominique Vidal vous répond et ensuite...
Comme ça, on va faire le relais. Moi, je crois que quand on voit ce qui se passe en Israël et aussi en Palestine pour d'autres raisons, c'est clair que la question de la responsabilité de la communauté internationale est énorme. Et le fait que Donald Trump ait été élu et que contrairement à ce qu'on dit, il soit très prévisible dans ce qu'il fait au Proche-Orient, à la fois l'alliance avec l'Arabie Saoudite, les pays sunnites, avec Israël et les États-Unis contre l'Iran, mais aussi le refus clair, quand il était à Bethléem, de prononcer le nom « colonisation » et de prononcer la formule « deux États ». Donc c'est pas avec Trump qu'on va avancer. En revanche, il y a une vraie responsabilité de la France et de l'Union européenne. Je dois dire que c'est pas le seul sujet qui me préoccupe avec le nouveau président de la République, mais un des sujets qui me préoccupe, c'est le fait que sur ces questions-là, il est extrêmement confus. Ce qu'il a déclaré à l'interview de Mediapart, c'était pas de reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine, reconnaissance que même François Hollande même François Hollande avait promise, qu'il n'a pas d'ailleurs
tous les présidents
réalisé,
français.
Mais la manière dont il parle
donc confus,
du refus de la colonisation,
il aurait éventuellement
la manière
une carte
dont il parle des deux États, c'est très traditionnel. On sent qu'il n'y a pas, pour l'instant, j'espère que ça changera, une réflexion approfondie sur la dynamique que la France doit créer avec l'Allemagne, évidemment, pour que l'Europe pèse d'une manière décisive pour qu'on sauve la solution à deux États et qu'on permette au dossier d'avancer.
Ofer Bronstein, vous pensez que la France, l'Union Européenne, peut sauver cette solution à deux États?
Oui, si elles s'en donnent les moyens. Tout d'abord, une précision par rapport au président Macron. J'ai eu la chance de suivre sa visite en Israël et dans les territoires palestiniens lorsqu'il était ministre de l'économie. Je pense que c'était une excellente visite parce qu'à l'époque, il pensait que l'économie, et il a raison, peut-être un levier de progrès, un levier de changement. Mais je voudrais aussi vous signaler qu'à deux semaines des élections présidentielles, c'était avec Hamon le seul candidat à la présidence qui est allé rencontrer le président Abbas lors de sa visite à Paris.
C'est vrai.
Ce n'est pas anodin qu'on va rencontrer en tant que candidat à la présidence le président de l'autorité palestinienne à Paris. C'est pour dire quelque chose et il ne l'a pas fait en cachette.
C'était donc, historique quand Mitterrand voyait Arafat aujourd'hui. Ce n'est pas historique de voir Abbas.
Moi, j'ai confiance dans la politique que va mener le président Macron.
Mais vous dites
qu'elle
peut jouer la carte, la France, si elle s'en donne les moyens, mais alors lesquels?
L'initiative française a été un flop. A fait pchit. Pourquoi? Parce que la diplomatie française, en tout cas une partie d'entre elles, les responsables français, et je les en avais avertis, n'ont pas fait un travail pédagogique.
Il fallait parler. Rappelons juste pour nos auditeurs, conférence internationale, sans les représentants israéliens ni palestiniens.
Pour faciliter, en faisant venir des représentants du monde arabe et musulman, pour faciliter la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Mais ça s'est mal fait. Il faut être pédagogique. Il faut aller rencontrer les Israéliens. Pas seulement aller rencontrer M. Netanyahou. Pas seulement aller rencontrer le ministre de la Défense israélien. Pas seulement rencontrer M. Abbas à Ramallah. Ça, c'est trop facile. Aller rencontrer la société israélienne. Aller parler aux médias israéliens. Aller dans les universités israéliennes. Personne en Israël, même en Palestine, n'avait compris de quoi s'agissait face à cette initiative française. Et c'est pour ça qu'elle a fait flop. Mais je veux parler de l'Europe. L'Europe doit se donner les moyens. Elle peut aujourd'hui un rôle. C'est pas normal que l'Europe soit le principal contributeur économique et le principal marché économique d'Israël sans avoir un levier politique. Moi, en tant que contribuable français et européen, je refuse de payer et la sous-traitance de l'occupation israélienne. Les Européens, et surtout le couple franco-allemand, et là j'ai encore une fois confiance au président Macron, doivent aujourd'hui imposer la voie européenne dans ce processus. Ils le peuvent s'ils le veulent.
Alors Dominique Vidal, sur ce flop de la diplomatie française, la nécessité de la pédagogie.
Je ne sais pas comment on définit la pédagogie en Israël et en hébreu. Pour moi, la pédagogie, ça commence par la clarté. Et je crois que ce qui a manqué dans la démarche française, et ce qui manque aujourd'hui, pour l'instant, dans la démarche du président Macron et de son gouvernement, c'est la clarté sur les objectifs. On ne va pas convaincre les Israéliens en essayant de les rouler dans la farine. Non, il faut que les choses soient claires. Il y a deux peuples. Chaque peuple doit avoir sa pleine souveraineté sur le territoire qui lui revient. Et on ne peut pas sortir de ces principes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut aimer ou pas aimer les deux États. C'est la seule chose qui existe en magasin dans la communauté internationale.
Dominique, tu as raison, il faut être clair, mais pas seulement clair. Il faut aussi suivre ses paroles et ses déclarations par des actes. Depuis le président Mitterrand. Tous les présidents français, je les ai suivis à la Knesset. Tous ont déclaré qu'ils étaient très amis avec Israël et qu'ils étaient pour la création d'un État palestinien. Ça n'a pas été suivi par des actes. Mais donc, c'est pas seulement être clair, mais c'est être rigoureux et faire suivre ces déclarations par des actes.
Peut-être un changement de méthode Dominique Vidal, aller parler dans les universités, les médias.
Je crois que c'est extrêmement important de dialoguer. Comme le dit Ofer, il y a une évidence là. Les Français ont du mal à dialoguer dans ce dossier et dans d'autres. Mais il faut aussi être extrêmement ferme. Il faut la carotte et le bâton. Et le bâton, c'est simple. Il y a un accord d'association de l'Union européenne avec Israël. Il contient un article 2 qui fixe très clairement l'obligation pour les signataires de respecter les droits de l'homme et le droit international. Si Israël ne fait pas, il faut mettre en cause la signature d'Israël au bas de ce traité d'association. On est dans quelque chose de clair
et de
net.
La France et l'Europe doivent jouer un rôle. C'est les seuls qui peuvent et doivent le jouer.
On va rester là-dessus et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir si le dossier a avancé. Merci beaucoup messieurs. Dominique Vidal, journaliste, historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique. Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix au Proche-Orient. Merci également à Quentin Bresson, à Alexandre Serre, à Florence Ponce. On se retrouve mercredi pour un nouveau débat. Tout de suite, c'est un nouveau journal.